G 101.5 FM. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur les ondes de Radio G au 101.5 FM à l'écoute de l'émission Radio Nippon, le programme qui vous fait voyager à travers la culture japonaise. Laissez-nous donc vous faire découvrir cette culture qui nous passionne au fil des récits et des rencontres, un mardi sur deux à 13h. J'espère que vous allez bien après ces 5 semaines de confinement. Toute l'équipe de Radio Nippon reste mobilisée pour vous redonner le moral à travers nos chroniques qui vous invitent à l'évasion dans les coutumes et les faits du pays nippon. Mais aussi avec les musiques d'origine japonaise. D'ailleurs, cette semaine, édition spéciale puisque nous ferons sur des musiques de jeux vidéo. Pour ce nouveau numéro de Radio Nippon, je réitère mon message de remerciement. Remerciement tout d'abord aux chroniqueurs qui ont réussi à enregistrer malgré les conditions relativement particulières dues au confinement et du fait que les studios de Radio G sont fermés. Merci également à notre monteur qui prend du temps et fait l'effort de préparer cette petite émission pour vous. Nous nous excusons d'ailleurs d'avance des quelques petites difficultés d'enregistrement et de son que vous pourriez entendre. En effet, les conditions particulières du confinement nous y obligent. Mais cependant, nous restons toujours présents pour vous faire garder le moral. Au sommaire de cet épisode aujourd'hui, nous retrouverons dans un premier temps David. Oui, David, ce voyageur dans l'âme, était parti en vadrouille durant le reste de l'année, partout sur le globe. Et aujourd'hui, il revient à nouveau dans cet épisode pour nous représenter ses carnets de voyage, comme il avait fait en début de saison. Ensuite, nous retrouvons Jonathan. Jonathan, ce gamer, qui est venu vous parler d'un sujet vaste, qui n'est d'autre que Tohu. Il vous en parlera bien mieux que moi et le présentera bien mieux que moi. Et d'ailleurs, il vous présentera plus que Tohu puisqu'il profitera des pauses musicales pour présenter quelques musiques extraits de Tohu. Ensuite, nous retrouverons Nicolas. Nicolas qui est fidèle et toujours présent au poste et qui est toujours avare de nouvelles et de petites chroniques d'actualité. Je n'en dis pas plus pour laisser le suspense. Enfin, pour clôturer l'émission, nous terminerons à nouveau sur l'histoire du Japon. Cette petite chronique que je préparais en temps normal en début de saison a été mise en pause quelque temps du fait que nous avions un programme assez chargé, mais elle revient toujours plus pour vous faire découvrir cette passion, cette culture qui me passionne particulièrement. Et d'ailleurs, nous allons attaquer un gros sujet avec l'air Edo. Mais tout de suite, sans transition, nous allons pouvoir retrouver David et ses petits carnets de voyage.
Vous êtes toujours sur les ondes de Radio G au 101.5 FM dans l'émission Radio Nippon. Et c'est maintenant moi, David, qui vais reprendre la suite de l'émission avec mes petits carnets de voyage. Le retour. J'avais déjà fait ce genre de chronique en début de saison. Le principe, c'est simple. Je vous raconte les choses qui me font penser au Japon lorsque je voyage. Et oui, quand on sait où regarder, on peut voir l'influence du Japon partout autour de soi. Dans cette nouvelle chronique, je vous emmène au pays des All Blacks, des Kiwis et des Maoris. J'espère que vous avez deviné. Je vous parle bien sûr de la Nouvelle-Zélande. Vous allez encore me dire, mais quel est le rapport entre la Nouvelle-Zélande et le Japon? C'est une très bonne question. Pour tout vous dire, j'ai pas fait le rapprochement immédiatement. Pour ça, il a fallu que j'achète un véhicule. Une Honda Odyssey. Ça y est, vous faites le lien? Je vous parle bien sûr de l'automobile Made in Japan en Nouvelle-Zélande. Et oui, la majorité du parc automobile en Nouvelle-Zélande est constituée de voitures en provenance du Japon. Du plus récent au plus vintage et à tous les prix. De plus des voitures, la conduite en Nouvelle-Zélande se fait à gauche, comme au Japon. Les voitures qui ont le plus la cote, ce sont les minivans japonais, car il y a beaucoup d'étrangers qui viennent en Nouvelle-Zélande en visa vacances-travail. Vous savez, ce visa qui vous permet de rester un an dans un pays pour faire du tourisme, mais aussi pour voyager. Souvent, ce visa est pour les personnes qui ont entre 18 et 30 ans. Il est très très populaire en Nouvelle-Zélande, c'est pour ça qu'il y a autant d'étrangers. Et la première chose qu'ils font lorsqu'ils arrivent, c'est d'acheter un véhicule, et souvent un minivan japonais. Ça leur sert à la fois de maison, mais aussi de transport pour visiter le pays. J'ai moi-même acheté un véhicule lorsque je suis arrivé. Les vieux vans japonais sont parfaits pour ça, car ils sont à la fois robustes et passe-partout. Ce ne sont pas de très gros véhicules, mais il y a assez de place à l'intérieur, car c'est vraiment optimisé, et c'est parfait pour faire un aménagement. Le seul hic, c'est leur autoradio. En effet, il est souvent d'origine et tout est écrit en japonais. Donc beaucoup de personnes ont de super autoradios qu'ils ne peuvent pas utiliser. Pour ma part, j'ai quelques notions de japonais, j'ai pu donc m'en sortir et l'utiliser. J'ai pu aussi aider quelques personnes que j'ai croisées sur ma route en leur apprenant quelques notions de japonais afin qu'ils puissent utiliser leur autoradio. Car vous savez, on passe pas mal de temps sur les routes en Nouvelle-Zélande. Et des fois c'est long. Mais c'est long. Donc on a besoin un peu de musique. Et sans autoradio, c'est compliqué. Comme quoi, apprendre le japonais, ça peut servir dans un pays anglophone. A l'inverse, apprendre l'anglais et aller au Japon, ça peut être compliqué des fois. Donc ce qu'il faut retenir, apprenez le japonais. Ça peut vous servir dans les pays anglophones et aussi au Japon. C'est la fin de mon carnet de voyage. Encore une fois, nous avons pu voir ensemble que le Japon est partout autour de nous. Je laisse la suite à mes petits camarades et moi je vous dis à bientôt. Salut!
Bonjour à vous. Aujourd'hui, notre chronique sera consacrée à Toho, aussi appelé Toho Project ou encore Project Shrine Maiden. Mais Toho, qu'est-ce que c'est? À la base, il s'agit d'une série de jeux de type Shoot 'em Up ou Shmup, ou bien appelé au Japon STG, un peu à la façon de Space Invader. La série de jeux a commencé en 1996 par la Team Alice, une équipe pas comme les autres, puisqu'elle est composée d'une seule et unique personne. Cette personne qui conçoit les jeux, la musique, les personnages et leur design, ainsi que l'univers de cette série. Zun, un japonais, au vrai nom de Junya Ota. En effet, Zun est son pseudonyme, ainsi que son nom de plume. Le reste de la chronique ne mentionnera donc que ce pseudonyme. La série a commencé pour un type d'ordinateur appelé PC98. Un micro-ordinateur sorti par la compagnie NEC et assez peu connu des plus jeunes. Après 5 épisodes sur ce support, Toho s'est par la suite exporté sur Windows à partir du 6e opus. Et c'est à partir de là que Toho connut un succès retentissant. Il existe à ce jour 24 jeux officiels dans le canon de la série Toho, sur Windows et 5 sur PC98, spin-off inclus. Si les jeux sont pour la plupart des shoot'em up en 2D à défilement vertical, ce qui démarque la série Toho des autres jeux du genre, c'est l'attention particulière accordée par Zun sur les personnages de la série ainsi qu'à leur histoire. Le joueur pourra principalement incarner Reimu Akurei, une princesse Miku, dévouée au temple Shinto, Marisa Kirisame, une sorcière, ou tout autre protagoniste du jeu. Une des particularités de l'univers de Toho est la quasi-omniprésence des personnages féminins, puisque les personnages masculins et plus marquants ne sont que 3. Comparé au total de presque 200 personnages marquants répartis sur tous les jeux vidéo de la série. Ils sont clairement sous-représentés dans cet univers. Si les jeux sont tous différents, ils prennent toujours place dans le pays de Gensokoi, un pays isolé du monde, composé d'humains, de magiciens et de yokai, développé par l'utilisation de la magie. Les yokai sont des créatures mythiques du folklore japonais, mais contrairement à celui-ci, où les yokai peuvent prendre diverses apparences, les yokai ont ici une apparence humaine. Comme dit précédemment, chaque jeu possède une histoire et un scénario différent. Si un soin particulier est apporté au personnage, la musique n'est pas pour autant laissée pour compte. Elle est agréable à écouter et entraînante. Si les jeux sont relativement simples à prendre en main, ils ne sont pas pour autant simples à terminer. En effet, Toho est réputé pour sa difficulté, car il s'agit d'un shoot'em up de type Danmaku, aussi appelé Maniac Shooter. Ainsi, c'est en jouant à Toho que l'expression « se faire canarder » prend tout son sens. Évidemment, la difficulté y est progressive et on peut choisir le niveau de jeu. Il existe 4 niveaux de difficulté, facile, normal, difficile ou lunatique, extrême. Le mode lunatique est réservé aux joueurs les plus aguerris de Danmaku souhaitant affronter des niveaux extrêmement complexes. Pour les débutants, je vous conseille de jouer en normal, qui est accessible avec un minimum de challenge. Malgré tout, si cela reste trop dur pour vous, vous pouvez toujours mettre le jeu en mode facile. La série Toho ne comporte pas que des jeux de type Danmaku. En effet, 4 épisodes de la série sont des jeux de combat en 2D, inspirés de Street Fighter. D'autres épisodes ressembleront à des Danmaku, mais le but sera ici de prendre en photo les différents boss. Si Toho s'est fait connaître au travers des jeux Danmaku, le premier épisode était en fait un casse-brique. L'univers de Toho est devenu extrêmement vaste au fil des séries. Une quantité prodigieuse d'œuvres dérivées et basées sur Toho a été créée par la suite. Celui-ci ne se limite donc plus uniquement aux jeux vidéo. En effet, les fans l'ont notamment décliné au travers des divers que le cercle d'Ojinshi, amateur ou semi-amateur, en manga, en musique, voire même en animé. Et tout ça alors que la série principale a commencé en tant que jeu amateur. L'impact de Toho est extrêmement fort dans la culture japonaise, puisque désormais, certaines conventions sont dédiées à cet univers. Pour ceux qui seraient intéressés pour tester différents jeux de la série Touhou, sachez que les premiers opus sont disponibles en abandonware et donc gratuitement sur internet. Sinon, les sites d'import proposent régulièrement les épisodes Windows sur support CD pour une vingtaine d'euros environ. Nous allons maintenant terminer cette petite chronique par une chanson de Touhou qui me tient à cœur, Bad Apple. Le thème composé originalement pour le quatrième opus, Lotus Land Story, réarrangé par l'artiste électro Masayoshi Minoshima. Les paroles sont chantées par Nomiko.
Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes toujours sur Radio G au 101.5 FM à l'écoute de l'émission Radio Nippon qui vous est proposée par l'association Soleil Levant. Je souhaite vous parler aujourd'hui d'une coutume, que dis-je, d'une institution qui structure, du moins en partie, la société nippone. Un lieu très populaire et très apprécié par l'immense majorité des Japonais, les onsen. Un onsen est, littéralement, une source d'eau chaude. Au Japon, territoire volcanique par excellence, est un endroit propice à la profusion de ces dernières. La première source thermale daterait du 7e siècle et serait Arima Onsen, proche de Kobe. Rappelez-vous, j'en ai touché un mot dans une de mes premières chroniques. Cet usage reste pendant des siècles cantonné à la pratique religieuse et il faut attendre l'ère Kamakura pour que celle-ci connaisse un essor, employé notamment à des fins thérapeutiques. Il faut cependant patienter jusqu'à l'ère Edo pour voir cette pratique connaître le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Le développement des établissements qui se donnent enfin les moyens d'accueillir du public mais également des touristes pour de plus longs séjours y est pour beaucoup. Dans la pratique, le terme onsen peut désigner la source elle-même, le bâtiment ou encore la station thermale dans son entièreté. En fonction des sources d'informations, le Japon en dénombre soit un peu plus de 3000 officiellement, soit entre 25 et 30 000 officieusement. Et bon nombre d'entre elles doivent leurs propriétés curatives à la composition chimique ou minérale de leur environnement. J'ai moi-même eu l'opportunité d'en tester plusieurs dans divers endroits. Un ryokan, un minshoku et un onsen. De mon point de vue, le plus agréable des bassins est le Rotenburo, le bassin extérieur. Quel plaisir de se relaxer dans un bain chaud, face à la montagne, surplombant la vallée ou la plage. Il y a, évidemment, une poignée d'us et coutumes à respecter dans ces établissements. Il serait inacceptable pour les Japonais d'entrer dans un des bassins sans s'être au préalable soigneusement lavé et rincé correctement. D'une manière générale, les Japonais se lavent toujours avant de prendre un bain, le bain n'étant utilisé que pour se relaxer. Au onsen, on se baigne nu, pas de maillot de bain, et dans de nombreux cas, les serviettes aussi sont interdites à proximité des bassins. Toutefois, les établissements autorisent généralement l'utilisation d'une toute petite serviette qui sert de cache-sexe avant de pénétrer dans l'eau. C'est un point très important dans la pratique, puisque du point de vue des Japonais, se baigner nu permet de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité et ainsi briser les éventuelles barrières. Les onsen sont des lieux de relaxation. Ainsi, il est de rigueur de respecter la tranquillité des autres barboteurs. Donc, on n'y court pas, on n'y crie pas et on n'y plonge pas dans les bassins. D'autres choses à connaître sur les onsen. Autrefois, les hommes et les femmes se baignaient ensemble dans des bassins mixtes. Mais l'influence récente de l'Amérique puritaine a mis fin à cette pratique. Il subsiste cependant quelques onsen mixtes disséminés à travers le pays. Les tatouages n'ont pas toujours bonne presse au pays du soleil levant car ils sont généralement associés à l'appartenance à la mafia. Ils sont donc généralement interdits dans les onsen. Mais les mœurs évoluent et vous trouverez de plus en plus d'établissements qui acceptent des personnes tatouées. Les personnes tatouées peuvent également se rabattre sur les onsen proposant des espaces privatifs. C'est très courant dans les ryokan. Certains onsen proposent de déguster des onsen tomago. Il s'agit de cuits dans l'eau du onsen. Pour terminer, je tiens à vous rappeler la différence entre un onsen et un sento. Comme je l'ai précisé à maintes reprises, un onsen est une source d'eau chaude. L'eau est naturellement chauffée, grâce notamment à l'activité volcanique omniprésente dans le pays. Un sento est un bain public dont l'eau est chauffée artificiellement. Il en existe pléthore au Japon et sont beaucoup plus accessibles financièrement. L'entrée y coûte moins de 500 yens, alors que dans un onsen, celle-ci peut coûter jusqu'à 4000 yens. J'en ai fini avec ma petite chronique. Je vous laisse avec Xavier qui, je pense, va continuer sa série de chroniques sur l'histoire de l'archipel japonais. Je vous souhaite un excellent après-midi et vous dis à bientôt sur Radio G.
Merci beaucoup Nicolas pour ta petite chronique qui nous redonne toujours le sourire. En tout cas, personnellement, moi, ça me met la pêche. On se retrouve, chers auditeurs, à nouveau pour continuer l'histoire du Japon. Quoi de mieux qu'un peu d'histoire pour amuser la galerie lors du prochain repas de déconfinement ? Non, très sincèrement, je plaisante. En tout cas, j'espère que vous tenez le choc pendant cette période de confinement. Mais revenons à nos samouraïs, puisque nous allons aborder une ère particulière, l'ère Edo. L'ère des Tokugawa, l'ère de repli du pays sur lui-même. Déjà, pourquoi l'ère Edo ? Tout simplement puisque, si on s'en souvient, Tokugawa et Ieyasu avaient réussi à déplacer le Bakufu à Edo pour en faire la future capitale. Ainsi, forcément, l'ère porte le nom de cette ville qui n'est d'autre que Edo. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est également l'ère du repli du pays sur lui-même. En effet, bien que Tokugawa Ieyasu ait réussi à renouer des relations commerciales et commence à avoir certains étrangers qui viennent, ses fils, qui lui succédaient au poste de shogun, n'envisagent pas les étrangers de la même manière sur les terres nippones. Ainsi, Iemitsu, qui n'est d'autre que le petit-fils d'Ieyasu, renforce les interdits vis-à-vis des étrangers et n'autorise que les ports de Hirado et de Nagasaki à en accueillir. Mais finalement, en 1622, il finit par céder à la tentation et recourt à la persécution des catholiques, tout particulièrement. Puisque certains missionnaires étaient venus pour essayer de convertir beaucoup de populations au catholicisme, mais malheureusement, le pouvoir ne voit pas ça de la même manière. Et autant jusqu'alors, les Tokugawa n'avaient pas recouru à la persécution, autant là, ils y retournent. Et ainsi, en 1622, ils ont recours à la persécution, au point qu'en 1624, les marchands portugais finissent par quitter le pays. Et les Anglais, qui avaient beaucoup commercé avec les Japonais au point d'en ouvrir un comptoir, finissent par le fermer. En 1624, ils ferment leur dernier comptoir à Hirado. La persécution se poursuit encore et toujours envers les chrétiens, à tel point que en 1637, une grande rébellion éclate à Shimabara. Malheureusement, la rébellion est réprimée dans le sang. Le christianisme est pourchassé. Toute personne chrétienne est tuée, exécutée. En 1639, le Japon en finit par être totalement fermé à tous les étrangers, sauf aux Chinois et quelques Hollandais, dans une partie seulement du port de Nagasaki. Même les Japonais sont confinés sur la petite île Nippon. Ils ont interdiction de sortir, sauf sur une autorisation spéciale pour sortir du pays avec seulement trois destinations possibles. Les îles de Ryukyu, qui sont en Corée, une partie de la Chine, voire une partie du sud-est asiatique. Mais aucune autre destination n'est autorisée. Cependant, cette période de repli s'ensuit quand même une période de paix assez prospère après tout ce que le Japon a vécu, puisque c'était de la guerre constante et incessante entre tous les pouvoirs qui étaient présents. Mais là, ça reste quand même une période de paix, mais ponctuée parfois par quelques révoltes réprimées dans le sang. On peut ainsi citer des révoltes qui ont clairement aidé, qui ont clairement inspiré le folklore japonais, avec en 1703 la révolte des 47 Ronin, qui ont inspiré moult et moult contes à leur propos. En 1735, en 1764 et 65, en 1773, toutes des révoltes, mais cette fois-ci des révoltes paysannes, parce que les paysans pensent qu'ils sont accablés par l'impôt. Mais pourquoi accablés par l'impôt? Ben oui, puisque cette période, la société nippone en fait va évoluer. Beaucoup de marchands deviennent riches. C'est une époque prospère pour les marchands. Mais comme ils n'ont pas le droit d'étaler leurs richesses par respect pour les daimyo et les samouraïs qui sont d'un rang plus élevé, ces derniers, les daimyo et les samouraïs, se voient obligés de maintenir un train de vie de plus en plus élevé, bien supérieur à leurs moyens. Et les daimyo et les samouraïs sont payés par les impôts. Et si vous vous souvenez d'une ancienne chronique que vous pourrez retrouver en podcast sur le site de Radio G, j'avais dit que le principal impôt qui existait était l'impôt sur le riz, donc qui touchait immédiatement les paysans. Donc obligatoirement, les daimyo qui vivent de l'impôt tirent les impôts vers le haut, finissent par tirer la corde sur les paysans, et les paysans accablés d'impôts, ceux-ci se révoltent. Mais finalement, ils se font massacrer, ce qui fait qu'il y a encore moins de production de riz et il y a une hausse des prix, laissant à nouveau les daimyo et les samouraïs dans une grande difficulté. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pourquoi il y a eu de nombreuses révoltes paysannes, malgré que ce soit une période de paix. Je disais donc que ça va être une période de paix ponctuée de quelques révoltes, si on peut citer quelques, jusque dans les années 1787. Et de 1787 à 1800, le pouvoir réussit finalement à assainir les finances et tente même de repeupler les campagnes. Grâce notamment à un conseiller du shogun qui réussit à dénoncer les administratifs véreux qui possèdent le pouvoir, qui clairement étaient véreux et détournaient l'argent. Ainsi, en année 1800, il arrive à peu près à assainir les finances, mais malheureusement, ça ne va pas aller pour le mieux. En effet, parce que pendant cette époque de paix où le Japon s'est littéralement replié sur lui-même, eh bien le monde a commencé à évoluer, a commencé à découvrir que la terre était ronde et le monde commence à arriver aux portes du pays nippon. On peut ainsi citer que les Russes arrivent par le nord, par les îles d'Hokkaido. Mais le pouvoir central ne souhaite pas les recevoir. Ainsi, même si des Russes mouillent pendant plus d'une semaine, voire pendant 6 mois, le shogunat ne veut pas les recevoir. On peut également citer en 1808 les Anglais qui arrivent. Et leurs bateaux étant littéralement vides, ils n'ont plus de vivres, ils n'ont plus d'eau potable, finissent par menacer d'attaquer un port s'ils n'ont pas des vivres et de l'eau. On peut également citer en 1825 le fait que le shogun à l'époque décide la fermeture à nouveau de tous les ports avec pour ordre carrément de détruire tout navire étranger qui mouillait dans un port japonais ou qui mouillerait. S'ensuit alors une série de famines de 1832 à 1836, 4 années très dures où les famines sévissent. C'est véritablement une catastrophe en termes de vie humaine. On peut clairement dire que c'est le début de la chute du pouvoir de l'Edo. Je vais m'arrêter ici pour la chronique histoire, puisque la fin de l'époque Edo, je souhaite l'aborder et en faire un focus un peu plus particulier, notamment sur le tour de force de cet amiral américain. Mais sur ce, chers amis et auditeurs et auditrices, je vous souhaite bon courage pour le confinement à venir et je vous laisse dans les mains d'une chanson tirée de Tōhō qui tenait beaucoup à cœur à un ami, à un très grand ami, Léandre. Je vous laisse donc écouter Voyage 1969 tiré de Tōhō.
Just wanna tell you.